semaine d'actualité. Sophie Malibaud.
Bonjour, comme chaque samedi à cette heure-ci, nous allons revivre 7 jours d'actualité dans le monde avec la rédaction de RFI. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez podcaster cette émission sur le site de la radio www.rfi.fr. Nous allons partir dans l'est de l'Ukraine, dans le nord de l'Irak, mais aussi à Gaza, au Nigeria et dans d'autres pays d'Afrique, sans oublier la France qui fait sa rentrée politique cette semaine. Notre invité est Olivier Kempf, l'auteur d'un ouvrage de référence sur l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN au XXIe siècle, la transformation d'un héritage. La deuxième édition de ce livre vient de paraître aux éditions du Rocher. Il tient compte des toutes dernières évolutions de l'organisation dans un environnement en mutation permanente, et cela à quelques jours d'un nouveau sommet de l'OTAN. Bonjour Olivier Kempf.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous connaissez bien l'OTAN pour y avoir officié. Alors avant de commenter l'actualité de cette semaine, dites-nous comment vous abordez ce prochain sommet de l'OTAN, le 4 et 5 septembre prochain, au Pays de Galles. C'est un moment important pour l'organisation, ce rendez-vous.
Oui, c'est un moment important à plusieurs titres. D'abord parce qu'il va marquer la fin des opérations en Afghanistan et donc l'OTAN les alliés vont discuter de que faire maintenant pour réorganiser leur interopérabilité, leur niveau technique et militaire. Et puis il y a un certain nombre de sujets qui sont présents. D'abord la crise économique, ne l'oublions pas, et donc la question des ressources, des capacités. La question qu'il ne faut pas oublier, mais elle est une tendance de fond de ce qu'on appelait le pivotement américain vers l'Asie, et donc comment maintenir justement le lien transatlantique. Il semble qu'il y aura d'ailleurs une déclaration transatlantique à ce sujet pour manifester la cohésion des deux rives de l'océan. Et puis bien évidemment il y aura les questions de sécurité aux confins de l'Alliance, à l'est avec l'Ukraine, et puis au sud et au sud-est avec notamment l'Irak.
Et l'Afrique également, le problème du développement d'ACMI au Maghreb.
Il y sera certainement fait allusion dans la déclaration finale. Pour autant, il y a un certain nombre d'autres sujets qui sont sur l'ordre du jour et qui susciteront probablement plus d'intérêt de la part des chefs d'État et de gouvernement, comme on dit.
Alors pour commencer notre tour d'horizon de l'actualité internationale, un début de semaine marqué notamment par les événements de Ferguson aux États-Unis. Plusieurs nuits d'émeutes dans les banlieues de Saint-Louis ont conduit à des dizaines d'arrestations. Dans la nuit de lundi à mardi, il y a eu 6 blessés par balle. Les manifestations ont débuté le 9 août après qu'un policier blanc a abattu un jeune noir. Diane Jean, au service international de RFI, a recueilli le témoignage de Chris King, travailleur social et collaborateur de l'hebdomadaire Saint Louis American.
Ce mouvement est conduit par des jeunes et il a été infiltré par des fauteurs de troubles venus de l'extérieur, des agitateurs. Et il est aussi l'objet d'une lourde répression de la part de la police avec des équipements militaires. Au début, c'était pour répondre à l'arrivée de ces éléments extérieurs qui ont introduit la violence dans le mouvement. Il est difficile de prévoir comment ça va tourner. Il y a eu de nombreuses arrestations la nuit dernière. Beaucoup de ceux qui ont été arrêtés venaient d'un autre État pour créer des problèmes. Alors le mouvement essaie de mettre dehors les fauteurs de troubles pour revenir à des manifestations pacifiques. C'est très gênant de voir une police locale qui n'est pas suffisamment entraînée sur du matériel militaire l'utiliser contre des citoyens américains. C'est troublant, c'est très gênant. Jusqu'ici, cette police ne s'est pas généralement illustrée comme étant particulièrement douée pour préserver la sécurité publique quand il s'agit d'une communauté à majorité noire. Alors, les voir dans cette communauté à majorité noire avec ce genre d'armes, je pense que c'est inapproprié. Et nous devons faire en sorte de revenir à des manifestations pacifiques où ces joujoux guerriers n'ont absolument pas leur place.
Mais pendant ce temps, dans le nord de l'Irak, les frappes américaines se multiplient pour desserrer l'étau sur le Kurdistan irakien. Les Peshmerga, les combattants kurdes, ont repris le barrage de Mossoul, le plus important barrage d'Irak, qui était tombé aux mains des combattants de l'État islamique. À Kirkouk, la situation est plus complexe. Kirkouk est une ville mosaïque où kurdes, turkmènes, arabes, sunnites et chiites, et des chrétiens également se côtoient. Une ville qui repose aussi sur le deuxième plus grand gisement de pétrole du pays. Les attentats terroristes s'y multiplient. Reportage de nos envoyés spéciaux, Boris Vichité, Abla Junaïdi.
Le 19 juillet dernier, dans le sud de Kirkouk, un kamikaze fait exploser son véhicule à un point de contrôle. Bilan, 19 morts. Hussein, un jeune turkmène chiite, y a réchappé.
Ils visent les civils, des turkmènes chiites pour la plupart, qui ont fui les villages pris par les terroristes. Ces gens sont venus chercher refuge à Kirkouk, mais ils sont visés par les attentats suicides.
Dans son quartier général enserré de murs en béton armé, le général Sarad Kadir, 12 ans à la tête de la police, a perdu des dizaines de ses hommes dans ces attentats. Il connaît bien les auteurs des violences.
Nous en avons arrêté. Ils avaient sur eux cette lettre de menace destinée aux chiites pour les terroriser. D'autres avaient des armes. Nous avons toujours eu des groupes terroristes plus ou moins liés à Al-Qaïda ou des anciens baassistes. Tous posent des bombes à Kirkouk. Il y a une coopération entre eux, mais c'est bien l'État islamique qui chapeaute l'ensemble.
Les attentats commis par cette alliance hétéroclite ont déjà fait 16 morts depuis début août.
Olivier Kempf, vous voulez réagir à ces événements de nature très différente, mais dans les deux cas, les États-Unis semblent confrontés à des maux du passé. D'un côté, à Ferguson, les événements rappellent le mouvement des droits civiques des années 60, et puis du côté de l'Irak, retour sur les années de guerre déclenchées par George Bush.
Alors sur Ferguson, donc tout le monde s'est quand même étonné de cette militarisation de la police. On voit quand même que c'est le résultat d'un discours sur la sécurité nationale, ce qu'on a appelé la sécurité nationale à la suite du 11 septembre, et on en voit maintenant les effets délétères. Mais au-delà, en tant que géopolitologue, je vois deux choses. Il y a la question noire qui est importante, parce que depuis notamment la deuxième élection d'Obama, on voyait des évolutions démographiques et tout le monde sentait la montée en puissance des Latinos. Là, avec Ferguson, on voit bien qu'il y a la persistance d'une question noire, et ça, c'est observable. La deuxième chose, c'est quelque chose qui s'appelle la géographie urbaine et la répartition des populations sur un territoire. Et qu'est-ce qui se passe à Ferguson quand vous regardez les cartes, l'évolution des cartes? C'est la fin d'une mixité territoriale qui produit des conflits et des séparations très très nettes sur le terrain, sur les espaces, et qui provoquent ces espèces de concentrations qui mènent à des affrontements que l'on a observés.
Difficile à gérer pour les États-Unis. Obama, qui souhaitait se consacrer justement à la scène politique intérieure et qui se retrouve aussi piégé sur le théâtre d'opérations extérieures, obligé de retourner en Irak.
Alors, obligé probablement de retourner en Irak de façon certainement différente de celle de George Bush, ne nous y trompons pas, parce que Obama a une politique étrangère incontestable qui est celle de d'une action à distance, ce que j'appelle une indirection de la guerre. Il ne veut pas une guerre directe, il veut des guerres indirectes, il veut agir indirectement. On a beaucoup critiqué ses drones, mais remarquons que il n'est pas intervenu au premier rang en Libye, il n'est pas intervenu directement au Mali, il nous a aidés. Et là, au Kurdistan, il est un peu forcé d'être celui qui va y aller, mais là aussi, il va y aller avec, je dirais, des moyens indirects, en essayant de réunir une coalition politique. Et là, on peut observer qu'il y a un assez grand soutien international à son action, ce qui est quelque part assez nouveau si on se souvient des années Bush. Et ça, c'est quand même la vraie différence par rapport aux années Bush.
Alors pour l'instant, on est juste à quelques centaines de conseillers militaires sur le terrain.
1200.
Oui, ça commence à monter en puissance. Oui. Ça peut aller beaucoup plus loin, vous pensez?
Beaucoup plus loin, non, je pense pas, pour la bonne et simple raison que les Américains ont des troupes de manœuvre au sol qui s'appellent les Peshmergas et qui s'appellent les Irakiens pour ceux qui sont organisés autour de Bagdad. Donc, en tout état de cause, ils vont certainement faire ce qu'on appelle du mentorat, c'est-à-dire envoyer des conseillers militaires et très probablement être dans les états-majors pour coordonner les actions, ça oui.
Alors, dans l'actualité cette semaine, les violences qui se poursuivent également en Syrie. L'ONU établit aujourd'hui à plus de 190 000 morts le bilan de cette guerre depuis mars 2011. Les avancées de l'État islamique en Irak avaient un peu éclipsé les nouvelles venant de Syrie. Lorsqu'est tombée cette annonce des djihadistes de l'État islamique, ils affirment, vidéo à l'appui, avoir décapité le journaliste américain James Foley. Alors, réaction immédiate des chancelleries occidentales. Le président François Hollande veut proposer à ses partenaires une conférence sur la sécurité en Irak et la lutte contre l'État islamique. L'Allemagne se dit désormais prête à livrer le plus rapidement possible des armes aux Kurdes, faisant rempart aux djihadistes dans le sillage de Paris. Et puis ce jeudi 21 août, il y a un an, c'était l'attaque chimique de la région de Damas. Environ 1400 victimes, en majorité civiles, attaque que les rebelles syriens et les occidentaux attribuent au régime de Bachar al-Assad. L'occasion en tout cas pour la rédaction de faire le suivi de l'information. Barack Obama annonçait en début de semaine d'ailleurs la destruction des stocks d'armes syriens sous la supervision de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Mais il reste des zones d'ombre, comme l'explique Olivier Lepic, spécialiste des armements chimiques, à Nicolas Falaise.
Ce qu'il est possible de dire aujourd'hui, c'est que la totalité des 1300 tonnes d'agents chimiques et précurseurs qui ont été remis par la Syrie à la communauté internationale ont été détruites. La deuxième certitude, c'est qu'aujourd'hui, la Syrie n'est plus une puissance militaire chimique de premier ordre, comme elle a pu l'être il y a quelques années. C'est-à-dire que les infrastructures, les moyens de production ont été neutralisés et détruits. La Syrie n'est plus une puissance chimique. En revanche, il persiste un certain nombre de doutes sur la totale transparence et la globalité de la déclaration syrienne, il n'est pas possible d'exclure totalement que la Syrie ait pu garder quelques stocks d'agents chimiques militaires. Par ailleurs, on l'a vu au cours des derniers mois, le régime n'a pas hésité à utiliser non pas un agent chimique militaire, mais je dirais un agent industriel toxique, du chlore en l'occurrence, pour mener des attaques qui s'apparentent à des attaques chimiques, en tout cas au regard du droit international et du droit de la guerre. Et donc, la majeure partie de l'arsenal chimique syrien a été détruit, mais il est très difficile d'avoir des certitude.
Olivier Kempf, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage très complet sur l'OTAN et ses dernières évolutions. Vous suivez à la loupe l'implication des pays membres, leurs engagements sur le terrain. Mais comment percevez-vous le geste des Allemands qui sont désormais prêts à livrer des armes aux Kurdes ?
Alors d'abord, c'est un geste qu'il faut analyser dans un contexte européen international, c'est-à-dire nous y avons fait allusion, l'intervention assez directe des Américains, mais les Italiens, les Français, les Britanniques ont eux aussi annoncé la livraison d'armes.
Mais donc,
chez les Allemands, c'est que c'est une sorte de changement de pied en tout état de cause par rapport à une ligne politique qui était plutôt fondée sur des débats intérieurs plus que sur des débats internationaux. Et donc les débats intérieurs reviennent toujours à une question qui entre la diplomatie extérieure allemande, attention aux engagements à l'étranger, aux engagements directs des troupes allemandes à l'étranger, mais aussi à notre implication dans les conflits éventuels. Donc là, oui, pour la première fois, on a une livraison d'armes, sachant, cela étant, que les Allemands acceptaient de livrer des armes à Israël.
Et alors, l'OTAN était impliquée dans la formation des troupes irakiennes lorsque celles-ci ont abandonné le terrain incapables de repousser les djihadistes de l'EI. Est-ce que ça a provoqué des débats au sein de l'organisation ?
Alors, vous faites allusion à ce qu'on appelle la mission de formation de l'OTAN en Irak, qui avait été mise en place à partir de 2004, à la suite de la guerre en Irak, à laquelle l'OTAN n'avait pas participé, il faut le rappeler, mission d'assistance et de formation de l'armée, mais qui venait en complément, malgré tout, des grandes missions américaines. Et cette mission a cessé à la fin de 2011, quand les Américains sont partis. L'OTAN, qui bénéficiait, j'allais dire, de l'environnement de protection américain, est partie elle aussi. Donc, voilà où on en est sur l'OTAN et l'Irak, malgré tout, l'empreinte était très très légère. Enfin, me semble-t-il, si on est honnête, on ne peut pas imputer à l'OTAN l'échec de la formation de l'armée irakienne. C'est quelque chose qui était quand même plus sous la main des Américains. Alors, derrière, s'il s'agit d'un échec de formation ou d'une volonté politique de la part des combattants, c'est ça qu'il faut regarder. Quand vous vous intéressez aux affaires stratégiques, vous pouvez avoir des organisations, vous pouvez avoir des matériels, mais à la fin des fins, il faut de la discipline et de la volonté, de la force morale et la volonté d'y aller, des combattants. Et c'est ce qui a clairement manqué, à la fois de la partie de l'armée irakienne, qu'on appelle principalement chiite, mais aussi de certaines parties des Peshmerga kurdes.
Alors, retour à l'actualité de cette semaine. Au début de la semaine au Yémen, à Sanaa, à l'appel du chef de la rébellion chiite, Abdelmalek al-Houthi, qui a lancé un ultimatum pour obtenir la chute du gouvernement. Il y a eu donc ces manifestations. Elles se sont poursuivies. Ce vendredi, ils étaient encore des milliers dans les rues de la capitale, alors qu'une délégation présidentielle était en pourparlers avec le chef de la rébellion, Assada, dans le nord du pays. Et puis enfin, toujours au Proche-Orient, les hostilités entre Israël et le Hamas ont repris de plus belle mercredi après la rupture du cessez-le-feu. L'armée israélienne a tenté d'éliminer notamment le chef militaire du mouvement palestinien lors d'un raid qui a coûté la vie à sa femme et son bébé à Gaza. Tout a recommencé mardi soir par des tirs de roquettes en provenance de l'enclave palestinienne, suivis de bombardements israéliens. Notre envoyé spécial à Jérusalem, Muriel Paradon, fait le point.
Mohamed Deif est une cible légitime à liquider, selon le ministre israélien de l'Intérieur, Gideon Saar, qui le compare à Ben Laden. Le chef des brigades Ezdin El-Kassam, la branche armée du Hamas, est un des hommes les plus recherchés par Israël, qui a tenté à 5 reprises de l'éliminer par le passé, sans jamais y parvenir. À l'heure qu'il est, on ne sait pas si Mohamed Deif est mort. En revanche, sa femme et l'une de ses filles ont été tuées dans le bombardement de leur maison à Gaza. L'armée israélienne a par ailleurs frappé une 60aine de sites en représailles aux tirs de roquettes sur Israël depuis hier après-midi. Ces roquettes ont non seulement visé le sud du pays, mais aussi Jérusalem, tard dans la soirée, et l'aéroport de Tel Aviv. Il n'y a pas eu de victimes. Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a rappelé son équipe de négociateurs du Caire. Pour l'État hébreu, il est inconcevable de parlementer sous les bombes. Le Hamas, lui, accuse Israël d'avoir sciemment fait échouer les négociations. Chacun se renvoie donc la responsabilité de la rupture de la trêve.
Sept jours dans le monde.
L'actualité internationale cette semaine, c'est aussi la poursuite des affrontements dans les faubourgs de Donetsk en Ukraine, avec des tirs d'artillerie dans la localité de Makievka, à quelques kilomètres seulement de la ligne de front. Depuis le début de la semaine, les habitants de cette localité vivent un véritable calvaire. Certains restent enterrés 24 heures sur 24 dans les caves de leurs immeubles. Reportage de Daniel Valo.
Pour pénétrer dans cette cave étroite et humide, il faut d'abord baisser la tête. Dans la pénombre, on distingue ensuite quelques lits et des matelas. Ils sont une douzaine à vivre là depuis 2 jours.
Ma famille m'a amené d'un endroit où ça tirait beaucoup et maintenant ça tire aussi dans ce secteur. J'ai 80 ans et je suis coincée dans cette cave. C'est vraiment trop dur pour moi. Je n'ai plus de santé, mes jambes ne me portent plus et je suis obligée de rester là.
Non loin de là, Ludmila contemple son bien le plus précieux, un sac plastique où se trouvent des pommes et quelques bouteilles d'eau. Âgée de 77 ans, elle a déjà vécu cette situation durant la Seconde Guerre mondiale.
C'était dans les années 41, 42, 43. Je me souviens que nos parents nous emmenaient à la cave et ils nous cachaient la tête sous des coussins. Et voilà maintenant, nous sommes vieux et ça recommence.
Dans un coin, des couvertures et quelques boîtes de conserve ont été entreposées. Nul ne sait ici combien de temps vont durer les combats et combien de temps il faudra rester dans cette cave à l'abri des tirs de roquettes et de mortiers.
Alors les gardes frontières et douaniers ukrainiens ont commencé jeudi l'inspection des premiers camions du convoi humanitaire russe qui est resté bloqué toute la semaine du côté russe de la frontière. Et puis ce vendredi, les Russes décident de faire mouvement vers Louhansk. 300 camions russes chargés selon Moscou de 1800 tonnes d'aide humanitaire destinées aux populations de l'est de l'Ukraine. Kiev dénonce une invasion et déplore ne pas avoir pu inspecter les cargaisons en totalité. C'est un convoi à haut risque. S'il était attaqué, ce pourrait être le prétexte à une intervention russe. Olivier Kempf, c'est un risque pris à dessein, selon vous, par Moscou ?
Oui, mais la situation sur place me semble extrêmement confuse, extrêmement difficile à analyser, avec en permanence des poker menteur et sincèrement, j'ai l'impression des deux parties. Et donc, on a quand même de grandes difficultés à dire réellement quelles sont les intentions des uns et des autres. Alors, en Occident, on dit Porochenko en se disant, tiens, passez le président et il maîtrise. Quand vous regardez l'intérieur de l'Ukraine, vous apercevez que c'est très confus, d'une part.
Il y a eu aussi plusieurs démissions cette semaine, démissions notamment de son ministre de l'économie.
Alors, voilà, vous avez eu des démissions du gouvernement, vous avez eu la démission quand même de la ministre anticorruption qui venait de Maïdan, qui donc au bout de quasiment 6 mois jette l'éponge. Vous avez l'annonce de la dissolution de la Rada, alors qu'on avait des élections parlementaires prévues. Donc, je trouve que c'est extrêmement confus. Et dans le même temps, vous avez des combats qui sont terribles. 400 000 réfugiés, vous avez des familles dont on a coupé l'eau et l'électricité depuis 3 semaines. Enfin, c'est effrayant.
On fait une courte pause pour un rendez-vous avec l'information de ce samedi 23 août. Et puis, on revient juste après pour reprendre notre synthèse de l'actualité en Afrique, puis en France.